« Vous êtes fou, monsieur. Complice du crime ?»«
Oh, cela, non. Vous ignoriez, évidemment, ce qu'il allait faire dans la rotonde lorsqu'il y suivit Paul Erstein. Mais vous saviez qu'il y allait avec un état d'esprit particulier. Et lorsqu'il en est revenu, vous saviez qu'il s'y était passé quelque chose. »
« Et nous ne savions rien. »
« Si. Quelque chose de brutal. Pas un crime, peut-être. » Mais pas une conversation non plus. Quelque chose de brutal, je le répète, qui permit à Maxime Tullier de vous rapporter l'argent.
Allons donc.
Si, si, si. Un lâche comme votre ami ne tue pas sans que sa physionomie garde une expression d'effarement et de démence. Et cette expression, il est impossible que vous ne l'ayez pas remarquée quand il est revenu du crime.
J'affirme que nous n'avons rien vu.
Vous n'avez pas voulu voir.
Et pourquoi ?
Parce qu'il vous remboursait les sommes perdues. Oui, je sais, vous êtes riches tous les trois. Mais cette partie de baccarat vous avait déséquilibré. Comme tous les joueurs d'occasion, vous aviez l'impression d'avoir été dépouillé de votre argent. Et quand cet argent vous fut rendu, vous l'avez accepté sans vouloir connaître la façon dont votre ami l'avait conquis. Vous vous êtes accroché désespérément au silence. La nuit, dans l'auto qui vous ramena vers Marom, et malgré l'intérêt qu'il y aurait eu pour vous à vous concerter et à donner de cette soirée une version moins dangereuse, aucun de vous ne prononça une parole. Pas une parole. Je le sais, par votre chauffeur. Et le lendemain, et les jours suivants, après que le crime eût été constaté, vous vous êtes évités les uns les autres, tellement vous aviez peur d'apprendre vos pensées réciproques.
Supposition !
Certitude, que j'ai acquise par une enquête minutieuse dans votre entourage. Accuser votre ami, c'était dénoncer votre défaillance initiale. C'était attirer l'attention sur vous et sur vos familles, et jeter une ombre sur votre long passé d'honneur et d'honnêteté. C'était le scandale. Et vous avez gardé le silence, trompant ainsi la justice et garantissant contre elle votre ami Maxime. L'accusation fut lancée avec une telle véhémence, et le drame ainsi expliqué prenait un tel relief, que M. Ovard eut un moment d'hésitation. Mais par un revirement imprévu, Jim Barnett ne poussa pas plus loin à son avantage. Il se mit à rire et dit « Tranquillisez-vous, monsieur. J'ai réussi à démolir votre ami Maxime parce qu'il est un faible, bourrelé de remords, parce que j'ai truqué la partie de tout à l'heure en préparant les cartes de manière à favoriser la banque, et enfin parce que la représentation de son crime l'avait bouleversé. Mais je n'avais pas plus de preuves contre lui que je n'en ai contre vous. Et vous n'êtes pas, vous, des gens à vous laisser abattre. D'autant plus que votre complicité, je le répète, est vague, inconsistante, et qu'elle se passe dans une région où le regard a quelque peine à pénétrer. Donc, vous n'avez rien à craindre. Seulement, il s'approcha davantage de son interlocuteur, et face à face, seulement, j'ai voulu vous interdire une paix trop commode. À force de silence et d'adresse, vous êtes arrivés tous les trois à vous envelopper de ténèbres et à perdre de vue vous-même cette complicité plus ou moins volontaire. Cela, je m'y oppose. Il ne faut pas qu'au fond de votre conscience, vous oubliez jamais que vous avez participé au mal dans une certaine mesure, et que si vous aviez empêché votre ami de suivre Paul Erstein dans la rotonde, comme vous auriez dû le faire, Paul Erstein ne serait pas mort, et que si vous aviez dit ce que vous saviez, Maxime Tullier n'aurait pas été sur le point de se soustraire au châtiment qu'il mérite. Sur ce, débrouillez-vous avec la justice, monsieur. J'ai idée d'ailleurs qu'elle vous sera très indulgente. Bonsoir. » Jim Barnett prit son chapeau et, tout en dédaignant les protestations de ses adversaires, dit au juge d'instruction « J'avais promis à Madame Fougeray de secourir son mari et au père de Paul Erstein de démasquer le coupable. C'est fait. Ma tâche est terminée. » Les poignées de main des magistrats manquèrent de chaleur. Il est probable que le réquisitoire de Barnett ne les satisfaisait qu'à demi et qu'il n'était guère disposé à le suivre dans cette voie. Rejoint sur le palier par l'inspecteur Béchou, Barnett lui dit « Mes trois bonhommes sont inattaquables. Jamais on ne se permettra d'y toucher. Fichtre, de grands bourgeois farcis de réputation et d'argent, soutien de la société. Et qui n'ont contre eux que la subtilité de mes déductions. En vérité, je ne crois pas que la justice ose marcher. N'importe. J'ai bien mené l'affaire. Et honnêtement ?
Honnêtement ?
Madame, il vous eût été facile de cueillir tous les billets de banque au passage. Je l'ai craint une minute.
Pour qui me prenez-vous, inspecteur Béchou ?
Il quitta Béchou, sortit de la maison et monta dans l'immeuble voisin, où le ménage Fougeray le remercia avec effusion. Toujours aussi digne, il refusa toute récompense et opposa le même désintéressement lors d'une visite qu'il fit au père de Paul Erstein. L'agence Barnett est gratuite. C'est sa force et sa noblesse. Nous travaillons pour la gloire. Jim Barnett régla sa note à l'hôtel et donna l'ordre que sa valise fût portée à la gare. Puis, comme il supposait que Béchou retournerait à Paris avec lui, il passa par les quais et entra dans l'immeuble du cercle. Au premier étage, il s'arrêta. L'inspecteur descendait. Il descendait vivement, et lorsqu'il aperçut Barnett, il s'écria d'un ton furieux « Ah ! Vous voilà, vous !» Il sauta quelques marches d'un coup et l'empoigna au revers de son veston. « Qu'est-ce que vous avez fait des billets ?»«
Quels billets ? » ?»«
Est-ce que vous avez tenu entre les mains dans la rotonde ?» Quand vous avez joué le rôle de Maxime Tullier ?
Comment ? Mais j'ai rendu les 4 liasses. Vous m'avez même félicité tout à l'heure, mon cher ami.
Et je ne savais pas ce que je sais !
Et qu'est-ce que vous savez ?
Les billets que vous avez rendus sont faux !
Et la colère de Béchou se déchaînant, il s'exclama :
Ah, vous n'êtes qu'un filou ! Ah, vous croyez qu'on en restera là ? Vous allez les rendre, les véritables billets, et tout de suite ! Les autres sont des imitations, et vous le savez bien, filou !»
Sa voix s'étranglait. Il secouait de toute sa rage exaspérée Jim Barnett, qui éclatait de rire et qui bredouillait.
« Oh, les bandits ! Ça ne m'étonne pas d'eux !»
Alors les billets qu'ils ont jetés à la tête de Maxime étaient des imitations. Oh, quelle canaille ! On les fait venir avec leurs liasses et ils apportent de faux papiers. Mais tu ne comprends donc pas ? Mais tu ne comprends donc pas que cet argent appartient aux héritiers de la victime ? Paul Erstein l'avait gagné, cet argent, et il faut que les autres le rendent.
La gaieté de Barnett ne connut plus de bornes.
C'est le scandale ! Les voilà volés à leur tour. Et deux fois ! Quelle punition pour des voleurs !
Tu mens ! Tu mens ! C'est toi qui as fait l'échange. C'est toi qui as empoché. Gredin, escroc !»
Lorsque les magistrats sortirent du cercle, ils avisèrent l'inspecteur Béchou, qui gesticulait sans voix, dans un état de surexcitation incroyable. Et en face de lui, appuyé au mur, Jim Barnett, qui se tenait les côtes, les larmes aux yeux et qui riait.